Les surfaces agricoles reculent.
La biodiversité est menacée partout.
On nage dans l'irrationalité.
On peut faire tellement plus. Peut-être sauver ce monde.
So Good Radio.
10 minutes pour sauver le monde.
Vous êtes bien sur So Good Radio, bienvenue dans 10 minutes pour sauver le monde, en compagnie de Luna Galtier-Auriol. Bonjour Luna.
Salut Romain.
Comment ça va Luna?
Super, écoute, en pleine forme.
Ravi de savoir que t'es en forme. À tes côtés, quelqu'un qui est probablement en forme, j'ai l'impression, un ancien critique rock, ancien parisien devenu néo-rural, un expert en musique brésilienne, m'a-t-on dit, surtout connu pour son humour corrosif, Thomas VDB est avec nous. Salut Thomas.
Bonjour les amis.
Comment ça va Thomas?
Ça va très bien, j'ai un limbago mais ça va mieux. J'aime bien ce que tu as dit, il est probablement en forme.
Probablement.
Écoute, ça va à peu près, ça va. Oui. Tant qu'on ne demande pas à mon dos c'est comment il va, ça. Tout va bien.
Une forme psychique en tout cas, à défaut d'avoir une bonne forme. Exactement. Dans le dos. Ton spectacle Thomas VDB s'acclimate, parle d'écologie, il dure encore un petit mois là, en mars 2024. Toi qui es plutôt anxieux de nature, ça t'a permis d'évacuer tes angoisses de faire un spectacle sur l'écologie ou pas du tout?
Non, pas du tout. Non, j'aimerais te dire que oui. Non, mais ça va. Quand je l'ai écrit, je m'étais rendu compte que j'arrive un peu à être marrant quand je parle des trucs qui me font flipper. Peut-être que j'ai un côté paranoïaque, anxieux. Peut-être j'ai une tête marrante tout simplement quand je suis paranoïaque et anxieux. Et donc du coup je parle de ces sujets qui m'inquiètent beaucoup, comme voilà, les sujets de l'écologie et de l'avenir. Il n'y a qu'à se baisser pour trouver un sujet anxiogène là-dedans. Donc
on pense à tous les stand-uppers éco-anxieux qui penseraient conjurer leur mal-être. Mais en fait ça marche pas.
Non,
il va falloir trouver d'autres cadeaux.
Par contre ça marche bien sur le public apparemment, parce que beaucoup de gens du public viennent me voir après en disant: ah bah ça fait du bien de rire de ces sujets-là. Mais je suis là, mais non, mais moi ils me font paniquer quand même quand j'en parle et que je fais des blagues avec.
Et on va parler de tout ça, de ton stand-up et puis de ce qui te redonne foi en l'humanité. Mais avant, Luna va prendre le micro, pendant quelques minutes pour parler buse, castor et zone humide.
10 minutes pour sauver le monde.
So Good Radio.
So Good.
L'Europe vient-elle de donner un peu d'espoir à la biodiversité, Luna?
Et oui, peut-être un peu de lumière au bout du tunnel. Mardi 27 février, le Parlement européen a définitivement adopté la loi sur la restauration de la nature.
Ouais, malgré l'opposition de la droite, ce texte clé du pacte vert, comme on l'appelle, l'ensemble de mesures encadrant la transition écologique de l'UE est passé avec 329 voix pour, 275 contre.
Oui, un texte qui oblige les 27 États membres à instaurer d'ici à 2030 des mesures de restauration sur environ un tiers de leur habitat terrestre et marin.
Alors, par exemple, dans les villes, les États n'auront pas le droit de diminuer les surfaces vertes déjà existantes, sauf si ces espaces constituent déjà plus de 45% de l'écosystème de la ville, c'est spécifique.
Oui, et pour ce qui est de l'amélioration de la biodiversité, elle sera mesurée en fonction de 3 critères, un qui va te plaire d'ailleurs, très poétique, le taux de papillons de prairie, le taux de stock de carbone dans le sol et celui des terres agricoles à haute diversité.
C'est majoritairement des élus de droite et d'extrême droite qui s'opposaient au passage de ce texte, arguant qu'il était un fardeau en plus imposé aux agriculteurs.
C'est notamment la demande de restauration de 30% des tourbières drainées utilisées en agriculture d'ici à 2030 qui avait fait réagir, mais restaurer les terres apparaît comme essentiel à l'heure où plus de 80% des habitats européens sont considérés comme étant, je cite, en mauvais état.
Le commissaire européen à l'environnement a quant à lui déclaré que cette loi était, je cite, une contribution concrète de l'UE à la préservation de la biodiversité, avant tout pour nos agriculteurs, dit-il.
Oui, d'autres comme le rapporteur de ce texte, l'eurodéputé socialiste César Louena, ont qualifié ce vote d'avancée historique et d'un saut très important. Pour les ONG telles que WWF ou BirdLife, elles parlent plutôt d'une victoire douce amère.
Ouais, la législation a été affaiblie par rapport au texte initial. Détail à relever, un frein d'urgence, je cite, est prévu pour que les États puissent suspendre l'application du texte en cas de circonstances dites exceptionnelles, par exemple un impact grave sur la production agroalimentaire.
La formule à retenir est donc la demande aux États membres de parvenir à des tendances en hausse pour la biodiversité. Toi, Thomas, ce genre de mesure, est-ce que ça te semble être de réelles avancées? Comment tu vois la suite niveau sauvetage du climat? Est-ce que tu es rempli d'espoir ou complètement dépité?
Ah bah là, c'est, tout va mieux. Non mais là, rien que le nom du truc qui a été voté, restauration de la nature, t'es là, mais c'est difficile de plus faire penser à une entreprise de greenwashing. Genre, ils auraient pu appeler ça « Tout ira bien ». Ils ont fait voter une loi qui s'appelle « Tout ira mieux », là, et vraiment... Donc non, oui, l'initiative est louable, mais dans la pratique, Enfin, c'est peut-être une façon de pas regarder toute la merde qui est faite à côté, parce qu'en fait, faire voter une loi comme ça, mais pour faire voter ce qu'ils font voter sur les pesticides, sur les constructions d'autoroutes, sur les paquebots géants, et donc ils continuent de valider tout ça d'autre part. C'est-à-dire, on continue à Saint-Nazaire de faire des navires, tu sais, là, je pense à ça, là, c'est ces bateaux de croisière, là, qui sont gigantesques. Et donc ils font restauration de la nature, mais à côté de ça, ils ont un projet de niquage de la nature qui est quand même assez vraiment, ils sont à fond là-dedans.
Le charme du en même temps, quelque part. Merci en tout cas.
Tout le charme du en même temps.
Merci Luna pour cette actu. Allez, on passe à la suite. Thomas, pour commencer, tu voulais nous parler d'un projet d'autoroute qui feuilletonne l'actu depuis des mois, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce projet, c'est le fameux A69 entre Toulouse et Castres, autoroute en construction qui devrait raccourcir le temps de trajet entre les deux villes, pour rappel. Une puissante contestation écolo s'y est opposée, mais jusqu'à preuve du contraire, les travaux se poursuivent. Malgré ça, tu voulais en parler aujourd'hui, cette lutte te redonne, malgré tout, espoir.
Alors cette lutte, alors ça dépend du point de vue duquel on se place. On se place parce qu'effectivement, en réalité, la lutte, je la trouve encourageante et je trouve c'est rassurant de voir qu'il y a des gens qui sont toujours en train de lutter pour que, cette autoroute n'existe pas, parce que dans l'absolu, des autoroutes, il y en a déjà plein. Il y a déjà une route qui va de Toulouse à Castres avec, qui est partiellement en quatre voies. Alors c'est pas entièrement en quatre voies, mais grosso modo, apparemment, la construction de l'autoroute ne ferait gagner que 20 minutes pour aller de Toulouse à Castres. Alors ma question, elle est déjà de dire, qui a besoin d'aller si vite à Castres? Ça, c'est vraiment genre.
À 130 bornes.
Qui a besoin d'aller? Alors bon, c'est peut-être joli, Castres, mais bon, s'il y a besoin d'y aller vraiment vite, j'ai une autre astuce qui est de partir plus tôt. Ça, c'est vraiment, tu mets ton réveil 20 minutes plus tôt. Et voilà, en fait, moi, je suis un peu découragé aujourd'hui par le bitume. Enfin, je pense que le bitume, il faut vraiment freiner le bitume. Je pense que si on peut déjà aller à Castres, aménager cette route sans qu'on ait besoin de raser des arbres, parce qu'en plus, les arbres qui sont rasés aujourd'hui sont des arbres pour la plupart centenaires et, dont la coupe a été interdite jusqu'au mois de septembre, parce qu'en fait, c'était pas autorisé, parce qu'en fait, en ce moment, en fait, c'est un corridor pour les animaux, en ce moment, tout le parc, ils sont en train de raser. Là, c'est des animaux, des oiseaux qui sont en migration et tout, et qui vont se poser dans ce coin-là. Et ils coupent les arbres, ils en ont rien à foutre. Et donc, tout a été mis en œuvre pour, de la part des mouvements écolos. Donc, les écureuils qui donc se mêchent, les mecs qui se perchent dans les arbres.
Notamment Thomas Braille, qu'on a
Thomas Braille, évidemment.
Vu.
Et donc voilà, je pense qu'aujourd'hui on n'a pas besoin de nouvelles autoroutes. Je pense qu'en fait, moi je suis un peu rétrograde là-dessus. Hein. Je suis pas trop. Je pense que le progrès aujourd'hui il est important pour la médecine, mais pour tout le reste, je pense qu'on peut arrêter la recherche scientifique. C'est-à-dire que vraiment pour la médecine c'est important, mais on n'a pas besoin de faire des smartphones qui sont plus rapides. On n'a pas besoin d'avoir des connexions Wi-Fi plus rapides. Tout marche déjà très bien. Arrêter de fabriquer des trucs qui pillent les ressources naturelles et qui niquent la nature. Parce que, encore une fois, ils font voter des trucs à côté dont on parlait juste avant, qui s'appelle restauration de la nature, mais ils sont en train de tout niquer. Donc c'est vraiment pour se faire du bien dans leur tête, quoi, je pense, qu'ils font ce genre de loi.
Et je sens, voilà, une certaine énergie de sobriété, peut-être même de décroissance. Je te laisserai choisir le bon qualificatif.
Oui, moi je suis.
C'est depuis l'Essonne, peut-être?
Depuis l'Essonne, non, même
depuis. Je parlais du fait que t'es néo-rural et que t'habites là-bas depuis.
Mais clairement, oui, moi je suis dans la diminution de mes besoins. Donc en fait j'essaye d'avoir besoin d'aller moins loin, j'ai pas besoin de voyager hyper loin pour être dépaysé, donc cette autoroute, je trouve qu'en fait c'est pas cette autoroute là en particulier, c'est symbolique de l'époque aujourd'hui. Est-ce qu'on a besoin encore d'accélérer les trucs? Est-ce qu'on a encore besoin de tout ça? Et je pense qu'on se pose pas la question à chaque fois qu'on construit quelque chose de nouveau de savoir est-ce qu'on en a vraiment besoin, quoi.
Alors question qui peut paraître anecdotique, mais est-ce que t'es aussi contre l'A69 parce que j'ai cru comprendre que tu n'avais pas ton permis? Est-ce que c'est aussi parce que tu t'es pris un parpaing dans la tête quand t'étais en voiture avec un pote il y a déjà longtemps? Est-ce que t'as finalement un certain rejet, un certain dégoût de la voiture?
Ah oui, je déteste. Alors figure-toi que j'ai passé mon permis il y a 2 mois, mais que je n'ai pas conduit depuis. C'est-à-dire qu'en fait j'ai 47 ans demain. Et donc ça fait 47 ans que je conduisais pas dans ma vie. J'ai eu le permis il y a 2 mois, puis en fait en réalité je continue de prendre les transports en commun parce que j'ai hyper peur en voiture. Parce qu'en fait en réalité je sais que les gens ils sont là, ouais mais t'as peur en voiture, mais c'est parce que t'as pas la confiance. Mais si, en fait, c'est dès que tu conduis, au bout d'un moment tu prends la confiance. Je suis là, mais en fait, alors déjà j'ai un problème avec les gens qui ont trop la confiance en voiture, parce que il suffit déjà tu prends la voiture. Mais moi ça m'est déjà arrivé avec un pote d'être en voiture et qu'il y a un chevreuil qui traverse la route et sur l'autoroute, hein, et qu'on s'en prend un chevreuil en pleine nuit sur l'autoroute. autres. Donc il suffit pas d'avoir confiance en soi, faut en plus avoir confiance dans les chevreuils.
Et,
et puis effectivement,
les chevreuils ne sont pas de confiance.
Ils, pas toujours. Et une fois, ça m'est arrivé avec le même pote d'ailleurs de rouler de nuit et on est passé sous un pont sur l'autoroute et il y a un connard qui nous a balancé un parpaing. Du haut d'un pont et le parpaing a explosé notre vitre. Donc je suis là, je pense qu'on n'a pas besoin de trucs qui peuvent autant nous mettre en danger systématiquement. Les gens sont là, ouais, mais t'as pas eu de bol. Mais voilà, j'ai pas eu de bol, mais je pense qu'en fait, il arrive à plein de gens de pas avoir de bol sur l'autoroute et je trouve que, et donc c'est pareil, je ne comprends pas qu'on puisse, par exemple, continuer de construire des voitures qui vont au-delà des limites autorisées. Alors ça, pour moi, c'est vraiment une aberration. Les gens, donc j'en parlais avec un mec il y a pas longtemps qui me disait, ouais, mais c'est con, parce qu'à ce moment-là, il ferait quoi, Mercedes et BMW? Mais je dis, ah ben, j'ai une bonne idée des voitures qui vont à moins de 130 km/h. Mais donc voilà, je suis pas pour la vitesse, je suis pas pour, et donc je pense encore une fois c'est un peu symbolique cette question de la 69.
Elle cristallise beaucoup d'enjeux, ouais.
Exactement.
Et ouais, à ce goût de radio, nous on a couvert le sujet de la 69, la décision ferme des pouvoirs locaux hein, et des pouvoirs publics, les militants perchés dans les arbres, on en parlait, les ZAD, les courses en caddie sur le tracé, je sais pas si t'avais suivi ça. Le temps passant, je me suis dit que la probabilité qu'une boîte comme Netflix s'empare de l'histoire pour en faire une mini-série, elle était quand même assez élevée. Est-ce qu'on peut imaginer un monde où la 69 devient une mini-série en 4 épisodes? Et si c'est le cas, à quoi ça ressemblerait? Quel rôle peut-être toi t'aimerais jouer là-dedans?
Alors c'est marrant parce qu'il y avait eu un film qui a été fait là-dessus, mais qui n'était pas sur l'enjeu écologique du projet, qui était un film de Xavier Giannoli qui s'appelait À l'origine, dans lequel François Cluzet jouait un mythomane qui revient dans une ville, alors je sais plus où ça s'est passé, c'est une histoire qui s'est vraiment passée, et dans laquelle il y avait une autoroute qui était en chantier, et qui avait été abandonné, je sais pas si une autoroute ou une route, et en fait le mec revient et se fait passer pour un, il est complètement mytho, il se fait passer pour un entrepreneur, okay. Et il annonce à tout le village qu'il va avoir besoin d'embaucher tout le monde pour reconstruire la route, et donc il fait croire à toute cette ville qu'en fait il va embaucher tout le monde, ou tout le monde est au chômage pour reconstruire cette route. Et donc c'est l'histoire plutôt d'un mythomane qui donne de l'espoir à un village, et malgré eux, quoi, parce que finalement tout ça n'existe pas à la fin. Mais,
moi je t'aurais bien imaginé, tu vois, dans le rôle d'un Thomas Barret, par exemple, qui se perd
un arbre. Ça c'est vrai.
J'ai un peu
le vertige avec mon limbago, c'est compliqué de monter dans un arbre en ce moment, mais effectivement, oui, il y a certainement un film à faire sur quelqu'un qui monte dans les arbres pour les empêcher de les faire couper. Quoi.
Et ouais, et j'aurais imaginé Laurent Wauquiez par hasard, juste comme ça, tu vois, qui serait ton ennemi, le concessionnaire de l'autoroute, tu vois, qui.
Est-ce que tu dis Laurent Wauquiez parce que tu sais que c'est mon cousin?
C'est peut-être ce que j'ai appris il y a deux heures en faisant.
Moi, je l'ai appris il y a deux ans. Mais
Laurent Wauquiez est ton cousin.
J'étais là, est-ce que je vais chez la papeterie m'acheter un cutter pour me taillader les veines? Ça, c'était, donc j'ai réussi à résister. Mais voilà, donc c'est, mais en fait, je le connais pas personnellement. J'aime, parce qu'en fait, j'ai beaucoup de cousins du côté de la famille de mon père. Et donc, j'ai découvert qu'il était même pas si éloigné que ça. Ouais. En plus, Laurent Wauquiez est mon cousin. Et donc,
il t'a offert une bouteille, il me semble.
Il m'a offert quand j'ai joué au Puy-en-Velay, j'avais une bouteille de chartreuse qui m'attendait dans ma
chartreuse,
loge.
Chartreuse?
Ouais. Et donc, je l'ai bu très vite pour oublier que c'est lui qui me l'avait offert.
Thomas, tu voulais aussi nous parler du Canard Enchaîné, journal que tu lis toutes les semaines,
oui.
Dis-tu.
Oui, parce qu'en fait, je me rends compte que la lecture de ce journal, donc ça fait peut-être quoi, 2 ans seulement que je me suis mis à lire le Canard Enchaîné, et je pense que la lecture de ce journal, en fait, me rassure. Parce que je vois pas de journal d'information qui soit plus à la pointe de l'information et des hyper sourcés à chaque fois, hyper factuels. Et donc, alors, il tape partout. Partout où il y a de la merde, il tape. Donc, ce soit à gauche, à droite. Mais tu te rends compte que quand même, il tape quand même plus souvent à droite. Parce qu'en fait, peut-être qu'il y a plus de merde là-bas. Et je les trouve. Et en fait, ce qui me donne de l'espoir quand je lis ce journal, c'est que je trouve qu'il garde de l'humour. Et en fait, ça m'aide moi-même. Des fois, je me dis, des fois, je vais pas dire que mon sens de l'humour baisse les bras devant la bêtise du monde, mais c'est tentant des fois de se dire, on est désespéré parce qu'en fait, on se fait bouffer de partout. Et la lecture de ce journal, en fait, et leur érudition, leur sens de l'information et la clarté des articles me redonne un peu espoir parce que je me dis, ah ben il y a des mecs qui sont encore plus au courant que moi que c'est la merde et ils gardent quand même leur sens de l'humour, et donc je me dis, donc toutes les semaines c'est un régal de les lire, de les voir m'apprendre des nouvelles catastrophiques et de les apprendre avec un ton un peu décalé quand même, parce que voilà, ils perdent pas leur sens de l'humour. Là, dans celui d'hier, j'ai lu par exemple que tu sais qu'il y a les JO qui arrivent, et donc ils ont très peur évidemment d'attaques, d'attentats. ça, des choses comme ça. Et donc, Aéroport de Paris avait mis en place un système de drones, un système de trucs qui permettrait de capturer les drones qui s'approchent à 3 km, un truc comme ça, donc avant qu'ils arrivent. Et le donc, sauf qu'en fait, le ministère de la Défense a dit « Ouais, on va plutôt donner le contrat à Thales, qui est une grosse boîte privée où il y a plein d'argent et tout ». Et finalement, Thales, ils sont complètement en retard sur leur programme de trucs pour capturer les drones. Donc, en fait, c'est en train de mettre en péril les systèmes de sécurité pour les JO. Et donc, c'est une super mauvaise nouvelle. Mais donc, la façon qu'ils ont de te raconter ça, tu dis, ah, bah, au moins, ils le racontent de façon un peu marrante. Donc, bah, du coup, en tout cas, j'ai prévu de pas aller aux JO, moi, cet été. Ça, c'est une certitude.
Eh oui, mais tu resteras dans l'Essonne, peut-être, ou ailleurs.
Je resterai chez moi, ouais, je regarderai la télé. C'est même pas grave si je le ratonne.
Le canard, c'est aussi la révélation d'un tas d'affaires, hein. Il y a les emplois fictifs de Pénélope Fillon, c'était en 2017, qui avait fait beaucoup de bruit. Il y a plus longtemps, il y avait l'affaire des frais de bouche de Chirac. Est-ce que toi, tu as une affaire préférée au canard? Ou peut-être, si tu devais imaginer la prochaine affaire que le canard sortirait, ce serait quoi?
Oh, difficile. J'ai même pas besoin d'imaginer parce que toutes les semaines, ils en sortent des dingues. Il y a un journaliste que j'adore dans le canard enchaîné qui s'appelle Jean-Luc Porquet, qui traite beaucoup des questions d'écologie et je trouve qu'il est d'une pertinence absolue à chaque fois. Je sais plus si c'est lui qui a écrit un article récemment dans lequel il parle des déchets nucléaires. Alors je sais que le nucléaire, c'est se rattraper aux branches que de compter sur les centrales nucléaires, parce qu'en fait c'est ce qu'il y a de moins, c'est hyper dangereux et pas sûr du tout, mais c'est ce qu'on a de plus sûr pour continuer à nous approvisionner en énergie les prochaines années. Et donc là il y a un article sur Bure et cette usine qui sont en train de fabriquer dans les 150-200 prochaines années. C'est un chantier qui va durer 150-200 ans pour enfouir les déchets nucléaires. Et comme on sait que ces déchets nucléaires, ils vont avoir une durée de vie de 30 000 ans, hein, ça c'est quand même pas très glope. Et donc, la question qu'ils sont en train de se poser, c'est comment faire pour des générations, peut-être en admettant que notre humanité disparaisse dans 5 000 ans et qu'il y ait une nouvelle civilisation qui apparaisse dans 15 000, ils sont en train de se dire comment on va faire pour avertir les civilisations prochaines de ne pas ouvrir ces endroits-là et donc ils inventent des sigles pour leur dire non, faut pas ouvrir ici, c'est pas bien, faut pas ouvrir. Et donc tu te dis mais ils se prennent la tête et donc j'ai lu ce dossier dans lequel ils racontent Bure et donc cette espèce de panier de crabe que c'est d'essayer de se démerder de ces déchets nucléaires et donc je trouve qu'encore une fois ils racontent ça de façon assez éloquente.
Bon, à la fin de l'émission, on a un petit jeu par lequel on passe à chaque fois. Le but, c'est de lister en une minute tout ce que notre invité aimerait changer dans le monde sur fond de musique avec Mission Impossible. Est-ce que ça te dit ?
Eh, c'est bien, on est parti.
Allez, c'est parti, t'as une minute pour sauver le monde.
Une minute pour ça c'est la musique que vous mettez
apparemment, ouais. Okay.
Alors déjà, j'enlève cette musique. alors déjà, annulation de tous les paradis fiscaux. Et tous les gars, et donc si possible, on essaie de trouver tous les mecs qui ont placé de l'argent dans les paradis fiscaux, et surtout le mec qui a eu l'idée des paradis fiscaux, et on leur rase toute la tête. On les en public, sur place publique,
on les
dit voilà, on les tond. Gratuité totale des transports en commun. Un SMIC à 1 500, 2 000, à 2 000, ce sera bien, je pense, c'est une bonne chose.
C'est le programme de Philippe Poutou.
Voilà, Philippe Poutou, ça, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Interdiction de coller les mecs qui collent en voiture. C'est les mecs qui respectent pas les distances de sécurité. Pour moi, je les mets dans le même camp que les gars de Daesh. Pour moi, Daesh et les gars qui respectent pas les distances de sécurité, c'est la même chose. Donc déjà, ils vont en prison, c'est sûr. Ensuite, je pense que je... La musique derrière, putain, vraiment. Qu'est-ce que je ferais d'autre? L'école, je pense qu'on va faire un truc dans les écoles qui serait quand même déjà les mettre au diapason de tout l'avenir climatique qu'il va y avoir, parce que mon fils est dans une école où genre ils sont tous devant des baies vitrées, il fait 45 en été, donc ils leur disent enlevez vos pulls, c'est le seul truc qu'ils ont prévu pour l'avenir du climat pour les enfants dans les écoles, d'enlever les pulls. Qu'est-ce que je dirais d'autre? On pourrait quantifier un peu l'accès à Internet. Je pense qu'à un moment, il faut se calmer avec Internet. C'est bien qu'on ait Internet, mais pas tout le temps, autant qu'on veut, comme ça. C'est un peu n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre?
C'est déjà pas mal.
Ouais, c'est déjà beaucoup de choses.
Un beau programme.
Hein, c'est un beau programme.
Il y a un Thomas VDB 2027 qui est en train de se dessiner peu à peu.
Ah oui, la musique est finie, donc
est terminée. Mais très beau programme. On le retient évidemment pour ta candidature.
Si ça peut donner des idées. Mais les paradis fiscaux particulièrement, je pense que ce serait bien de se pencher sur le problème.
Et puis la tonte aussi,
la tonte en public de tous les gens qui ont mis de l'argent dans les paradis fiscaux. Évidemment. Tout simplement.
Merci beaucoup Thomas d'être passé nous voir, passer une tête à So Good Radio. Hein. C'était super cool de te recevoir. Ton seul en scène, Thomas VDB, s'acclimate, continue hein, pour ce mois de mars.
Absolument.
C'est le dernier mois, a priori, pour lequel on peut aller le voir. Tu seras de quel côté du pays d'ailleurs pour cette fin de cette tournée? Tu bouges un peu partout?
Bah, ça dépend un peu de quand vous postez cette interview, parce que j'ai envie de vous dire que la semaine prochaine, je suis à Albi et Toulouse. Mais bon, si vous la postez la semaine prochaine, ce sera demain, je suis à Albi et Toulouse.
Dans deux semaines.
Voilà, donc ensuite je serai où ensuite j'ai des dates en banlieue parisienne à Rambouillet, j'ai des dates à
la question qui tue.
Attends, j'ai mon attaché de presse, je ne sais pas lire sur les lèvres. Donc elle va me dire, allez, tu sais, je joue à Arpajon-sur-Cère, c'est en Essonne, tout près de chez moi en plus, ça c'est génial.
Ça c'est local.
Et après, et ensuite j'ai plein de dates en Bretagne, début avril à Saint-Coulon, plein que des villages qu'on ne savait pas qu'ils existaient. Saint-Coulon, c'est tout dans le 35 au-dessus de Rennes, vers Saint-Malo. Donc s'il y a des gens de Saint-Malo qui nous écoutent et vous savez pas quoi foutre début avril, venez me voir en spectacle.
Saint-Malo, rendez-vous début
avril. Ce soir je suis à Namur, mais ça, elle sera pas passée à l'émission. Donc là, il y a deux semaines j'étais à Namur.
Bien vu, la gestion de la concurrence des temps est brillante. Hein.
Voilà. Montfort-sur-Meuse, tu les inventes ces noms de village. Mais voilà, il y a plein d'autres, c'est sur Thomas VDB, enfin sur internet vous trouverez.
Ça marche, allez, comme d'habitude on se quitte sur une petite chanson, hein. C'est une chanson que t'as choisie, ouais. Thomas. Alors je vais peut-être mal la prononcer, tu m'avais dit Riptide de c'est Frustration.
C'est le nouveau single de Frustration qui est vraiment probablement le meilleur groupe de rock en France depuis une vingtaine d'années.
Eh ben on écoute ça tout de suite, à très vite sur So Good Radio tout le monde. Merci Thomas d'être venu nous voir. Merci. Salut aussi à nos auditeurs, auditrices, ciao.